Marco D'Amico, fratello. Comment ça va, mon ami?
Ça va pas mal, toi?
Ça va très bien, merci beaucoup. T'as passé un beau week-end?
Pas mal. Je te dirais, les choses ont bougé. Toi?
Les choses ont bougé. Écoute, moi, je travaille, mon ami.
Beaucoup.
J'avais deux émissions de radio. Ça continue. Mais demande-moi donc si j'aime ça. J'adore ça. Marco, le repêchage s'en vient très rapidement. Le 27 juin prochain. J'ai hâte. Là, on est le 2 juin. Commence à compter les dodos. Là. Ça s'en vient. Et bien sûr, la finale de la Coupe Stanley qui s'ouvre mercredi. C'est long. On pense avoir du hockey à tous les jours à pas de n'avoir. Tu sais, c'est long. Mais la question qui reste sur toutes les lèvres et le débat qu'il va avoir jusqu'à temps que ça se règle, cette question-là, c'est l'histoire du deuxième centre chez les Canadiens de Montréal, n'est-ce pas?
Ah, absolument, c'est la question dont tout le monde veut une réponse aujourd'hui. Et je ne sais même pas si on va l'avoir au repêchage.
Non, en fait, j'espère qu'on va l'avoir au repêchage parce que toi, tu t'es penché dans les derniers jours un peu sur cette analyse-là. Ben, un peu, beaucoup même. On a deux choix, première ronde. Choix 16-17. Donc, deux de suite. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va repêcher deux fois en première ronde, une fois ou aucune fois? Il y a plusieurs rapports qui sont sortis dans les derniers jours disant que le Canadien était très, très ouvert à transiger un de ces deux choix, même les deux, et peut-être aussi Logan Mailloux. C'est Chris Johnston, c'est ça, qui a sorti ça. Toi, là, si je te dis, quels sont les besoins criants du Canadien et comment ça va impacter ces choix-là, 16 et 17, en première ronde? Combien de fois on va repêcher et est-ce qu'on peut aller aider à remplir ces besoins-là avec seulement ces deux choix-là?
Honnêtement, ce que le Canadien manque en ce moment, c'est de la qualité. C'est très rare d'aller chercher ton deuxième centre en repêchant 16 et 17. C'est certain qu'il y a des équipes qui ont été chanceux par le passé. On regarde juste les Islanders de New York avec Matt Barzal à 16. Mais c'est pas ce genre de repêchage-là cette année à date. Et donc, oui, tu peux aller chercher des centres intéressants, mais ces centres-là ont d'autres débits ailleurs. Donc, ou ils sont pas assez gros ou grands pour nécessairement être un fit dans la vision que les partisans ont pour en termes de cible. Ils veulent du chien dans leurs joueurs. Ils veulent des joueurs qui vont être capables de s'imposer un peu plus physiquement. Ben, il y a des options dans ce cas-ci, mais pas au centre. Il y a des options à l'aile. On a parlé des Carter Bear, Lyndon Lakovich, Justin Carbonneau. Il y en a plusieurs qui fit le fameux compete que Jeff Gorton et Kent Hughes recherchent en ce moment. Cette espèce de combativité sur la glace, peu importe que ce soit 6 pieds, 6 pieds 4, un joueur qui va tout donner sur la glace. Donc, c'est ça qu'ils recherchent. Il y en a plusieurs qui vont être disponibles dans ce terrain-là, mais je sais que le X est... Je ne sais pas si beaucoup de personnes sont prêtes à attendre 3-4 ans que ces joueurs-là arrivent avec l'équipe. C'est là où ce que la décision va être prise. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu le rapport de Chris Johnston, je me suis informé un peu aussi. C'est pas nécessairement que les deux choix seraient disponibles en même temps, mais c'est plus probable que le Canadien s'en garde une et décide de transiger l'autre, un peu comme ils ont essayé de faire l'année passée. Avec le 21e choix et Logan Mailloux dans un échange pour Trevor Zegras au cas où est-ce que un certain Ivan Demidov n'était pas disponible au 5e rang. Donc, c'est un peu cette situation-là, mais ils n'ont pas de choix de top 5 cette année. Donc, ils sont plus, je vous dirais, plus souples, plus agressifs dans le processus d'essayer d'améliorer l'équipe en ce moment. Mais d'aller là à transiger leurs deux choix, Logan Mailloux, tout en même temps, je doute. Parce que les Canadiens ont été très... direct avec ce point ici, c'est que la reconstruction n'est pas finie. Et ils veulent continuer à se bâtir quelque chose de façon constante qui va leur permettre de gagner pendant des années, pas juste une fenêtre de 3 ou 4 ans.
Non, ça c'est sûr que la reconstruction n'est pas terminée. On vient de terminer l'an 3, si on veut. On a atteint les séries éliminatoires. Ouais. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Peut-être, on les a fait pareil, ça ferait progresser tout le monde dans l'organisation, puis on est très heureux de ça. Maintenant, il y a plusieurs avenues, je pense, qu'on peut utiliser dans une transaction, les agents libres ou encore une fameuse offre hostile qu'on peut faire à l'un ou l'autre des joueurs qui sont des agents libres avec restriction dans leur organisation. Il y a plusieurs avenues aussi philosophiques. Est-ce que si on s'est avancé au repêchage l'année passée pour aller chercher Michael Hage, on le voit comme notre prochain deuxième centre qui va arriver dans quelques saisons? On sait, il retourne dans NCAA l'an prochain. Donc, Marco, je te pose la question. Est-ce qu'on va chercher un joueur qui s'en vient ici pour trois saisons? Là, je sais que tout le monde, je dis ça, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Sidney Crosby, mais Arpin Basu, ici même, dans cette émission, vendredi dernier, parlait de Pavel Zacha. Ou encore, on peut aller chercher un jeune qui va ajouter du talent à très long terme dans l'organisation. Puis là, ben c'est sûr, David Etigui en a parlé ici dans cette émission-là. J'en ai parlé dans la mienne. Puis je nomme celui-là pour peut-être imager mon propos. Mason McTavish pourrait être une cible pour le deuxième centre des Canadiens de Montréal. Quelles sont tes cibles à toi et quelle philosophie tu prendrais? Du long terme ou du court-moyen terme?
Tout dépend de l'offre et la demande. C'est clair que s'il y a un centre du calibre de Mason McTavish qui va être disponible sur le marché, tout le monde va se huer sur lui. Il y a à peu près une quinzaine d'équipes. Je dirais 10 pour être certain. Il y a 10 équipes qui cherchent un deuxième centre en ce moment. Il n'y a pas toutes les équipes dans la Ligue nationale qui ont les atouts que les Canadiens ont en termes de choix au repêchage et d'espoir. Mais ça fait aussi en sorte que le Canadien devrait ou devra donner un gros morceau pour aller chercher ou des gros morceaux pour aller chercher un joueur comme ça. Donc, ça complique un peu la tâche tant et aussi longtemps que tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu as avec Michael Hage. Je sais que l'organisation l'aime beaucoup. Comme tu l'as dit, ils ont transigé pour aller le chercher. Ça en dit gros. Ils le voyaient beaucoup plus haut sur leur liste que 21e au total. Je pense qu'il était plus dans le top 10 du Canadien de Montréal. Donc, ça en dit beaucoup. Sur la façon dont le Canadien voit ce joueur-là. Mais une des faiblesses que je trouve que le Canadien de Montréal a eu par le passé, c'est de tout mettre d'un bord pour qu'un espoir arrive pour sauver la situation. Tu dois avoir plusieurs options, spécialement au deuxième centre. Tu dois te donner l'opportunité de mettre quelqu'un devant Michael Hage, que ce soit de façon temporaire, et qu'éventuellement, il arrive dans ce rôle-là et qu'il ne se fait pas garocher dans le rôle un peu comme on a vu par le passé avec d'autres espoirs. Donc, c'est pour ça que je dis quelque chose qui serait de 2 à 3 ans aurait de l'allure. C'est pour ça que j'ai aimé la suggestion d'Arpin Basu avec Pavel Zacha. Je sais, c'est un Bruin de Boston, on ne l'aime pas à Montréal, je peux comprendre, mais c'est le genre de joueur qui ne coûterait pas nécessairement, selon moi, le choix de premier tour du Canadien de Montréal pour aller le chercher. C'est un package qui pourrait se faire avec un des deuxièmes choix et un espoir pour aller chercher un joueur comme ça, parce que Boston essaie de se départir un peu de la masse pour aller chercher d'autres joueurs à d'autres positions. Donc, ça a du sens. Un autre qui pourrait avoir du sens, je pense qu'on a parlé en fin de semaine, Michael McLeod avec les Sabres de Buffalo. Tout le monde va être du côté de Logan Thompson, mais ça, je ne crois pas que Logan Thompson va demander une transaction. Mais Michael McLeod est un joueur qui, lui, a joué un rôle, je dirais, de deuxième centre vers la fin de la saison.
Tu veux dire Tage Thompson?
Tage Thompson, excuse-moi, j'ai dit Logan
Thompson. Logan, qui est le gardien de but des Capitals de Washington, on s'en rappelle très bien.
C'est ça. Tage Thompson partira pas de Buffalo, vraisemblablement, mais Michael McLeod, lui, pourrait être disponible. Et c'est un joueur qui va être dû une belle somme d'argent quand son contrat va prendre fin. Donc, ça se peut être une cible, un joueur de centre qui est capable de jouer avec des joueurs de talent, mais aussi apporter un aspect offensif et agressif dans son jeu qui manque présentement dans la ligne de centre du Canadien de Montréal. Et si Michael Hage arrive dans l'organigramme et pousse pour devenir le deuxième centre, mais c'est un gars que tu peux descendre au troisième centre, puis ça serait une ligne de centre élite rendue là. Donc, c'est ce genre de vision-là si c'est sur le marché d'échange. Par contre, si on s'en va vers peut-être les agents libres, mais là, tu peux commencer à parler d'un Matt Duchene, tu peux commencer à parler d'un Michael Granlund qui pourrait rentrer dans la discussion. À Brock Nelson, je doute, parce que ça, il préfère rester aux États-Unis. Mais c'est ces genres de joueurs-là que tu pourrais commencer
à regarder. C'est vrai que le nom de Ryan McLeod est sorti quelquefois de toute façon, là, présentement, ce que les fans des Canadiens et les observateurs font, c'est de regarder peut-être chacun des joueurs de centre dans la Ligue qui peuvent occuper ce poste de deuxième centre-là. Il regarde la faisabilité d'une transaction ou d'une signature. Tu parles de Matt Duchesne. Je doute fort bien qu'ils veulent s'en aller de Dallas. Il est tellement heureux là-bas. Il a connu une renaissance là. Sa famille y est installée. C'est un fan de country. Il est ami avec des chanteurs country. Il va pas s'en venir à Montréal. Je ne crois pas.
Le problème avec ça, c'est que le Dallas a semblé faire son choix. En donnant le contrat qu'ils ont donné à Rantanen, c'est un 12 millions qui a pris quasiment toute la masse juste là. Et ensuite, la prolongation qui a été offerte à Wyatt Johnston à 8 millions, mais là, ça vient occuper toute la place. C'est un 20 millions de plus sur la masse. Donc, si on regarde Dallas en ce moment, pas beaucoup de place en tant que telle pour aller chercher de l'aide et pour re-signer des gars de talent, sauf si, exemple, un gars comme Matt Duchesne décide de prendre un contrat sur le long terme, comme on vient juste de voir signer avec Tampa, avec Riani Gourde, où ce que disons, la valeur moyenne du contrat est descendue un peu à cause qu'on ajoute 2 ou 3 années de plus. Donc, Riani Gourde, 2,33 millions, mais sur 6 ans. C'est là où ce que ça se joue. C'est
tu penses quoi de ce contrat-là avant qu'on se quitte, d'ailleurs, Marco? C'est long, là, mais à 2,33, honnêtement.
C'est ça. Tampa, je pense que Tampa se fiche de ce qui va se passer après l'année 2028. Que ça soit, peu importe leur position dans le classement, je pense que le noyau rendu là va être simplement trop cher pour continuer. Et ils n'ont pas les ressources, ils n'ont plus les choix de premier tour pour continuer. Donc, ils se doivent de continuer à garder ce qu'ils ont en ce moment dans l'équipe et pousser avec ce noyau-là pour essayer de gagner une coupe ou l'année prochaine ou celui du suivant, parce qu'après ça, il reste pas plus grand-chose pour ajouter à Tampa, sauf si ils vont chercher des bonnes valeurs sur le marché des agents libres. Donc, pour moi, je le comprends. Et une fois arrivé à 37 ans, 38 ans, si c'est rendu un contrat qui ne vaut plus la peine, un rachat sera vraiment pas un gros problème pour eux.
Ouais, écoute, Marco, on continue cette discussion-là dans les prochaines minutes, mon cher ami. On a encore bien des sujets à éplucher, mais surtout, est-ce que au niveau du cap salarial, on peut se permettre d'aller faire une grosse transaction? Ça, c'est une des questions. Et des partenaires de danse possibles aussi pour les Canadiens de Montréal dans cette obtention d'un deuxième centre, puis les autres besoins qu'on a également. Le tout avec Marco D'Amico. Restez là dans 2 minutes. Vincent Demuy s'amène par la suite. Il faut parler du Rocket de Laval. On est retour avec notre chum Marco D'Amico. Tu nous as mis la puce à l'oreille sur quelque chose de très intéressant, mon ami Marco, en disant il y a à peu près 10 équipes qui se cherchent un centre numéro 2. La grosse visite en studio. Hugo Reich, il y a 10 équipes qui se cherchent un centre numéro 2 dans la Ligue nationale. Kent Hughes va essayer de négocier le mieux possible pour aller en chercher un. Mais les principaux rivaux dans cette course-là, Marco, c'est qui?
Il y en a une coupe. Tout dépend de ce qui va se passer avec les agents libres. Je sais que la Floride essaie vraiment d'aller se garder un certain Sam Bennett, mais si lui part, ils vont essayer d'aller chercher quelque chose pour combler sa perte. Et je sais pas s'ils sont prêts encore pour donner ce rôle-là à leurs jeunes. Donc, je regarde, mais c'est les Flames de Calgary qui recherchent un centre depuis longtemps. Un deuxième centre. Ils sont allés chercher Morgan Frost, mais ils ont besoin vraiment d'un centre d'un certain âge. Parce que là, Nazem Kadri commence à monter en âge, même si on a le même âge. Ça devient vieux dans la Ligue nationale, ça. Si tu regardes les Flyers de Philadelphie, c'est une équipe qui, je dirais, probablement sur papier, en ce moment, la pire ligne de centre de la Ligue nationale en termes de l'organigramme au complet. Les Penguins de Pittsburgh, je sais, même avec Malkin et Crosby, se cherchent quand même un centre pour combler la perte éventuelle de Malkin, qui n'a pas long, lui non plus, dans la Ligue nationale. Ce sont les principaux. Et là, tu inclus aussi un club qui essaie de s'en échanger un, à Marco Rossi, qui est le Wild du Minnesota, qui, eux, vont se chercher un vrai deuxième centre sur le marché pour jouer derrière Joel Eriksson Ek. Donc, tu as déjà ces cibles-là. Et selon ce que j'entends, les Sabres de Buffalo aussi sont une équipe qui commence à chercher pour voir s'ils peuvent ajouter quelque chose à leur ligne de centre. Parce que Josh Norris, avec ses blessures, pas nécessairement une valeur sûre. Donc, c'est pour ça que je me demandais, ben, s'ils font ça, est-ce qu'un joueur comme Ryan McLeod et non Michael McLeod serait disponible sur ce marché? Donc, il y a à peu près, je viens de nommer à peu près 7 ici. Il y en a peut-être d'autres. Il faudrait que je surveille mes notes, mais c'est quand même assez intéressant cet été. Et je suis pas mal sûr qu'une équipe qui va être très agressive dans ce dossier-là aussi, ça va être la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline vont essayer vraiment d'améliorer leur ligne de centre. Et si un joueur comme Sam Bennett se rend comme agent libre, une équipe à surveiller.
Oui, tu penses qu'il pourrait aller en Caroline? On entendait les dernières rumeurs qu'il l'amenait peut-être à Toronto, là, qu'il y aurait un intérêt
Aussi une
mutuel.
option.
Ouais.
Mais s'il se rend au marché, c'est clair qu'il va écouter toutes les offres. Et la Caroline, on a vu, a été très agressif dans le dossier Rantanen. Ils vont essayer d'être agressifs dans le dossier Mitch Marner. Et je suis convaincu qu'ils vont regarder Sam Bennett aussi s'il se rend là.
C'est intéressant que tu donnes ça parce qu'on dirait que la Caroline et Toronto ont à peu près les mêmes besoins. T'sais? Et
Absolument.
ces
Absolument.
besoins-là se nomment en Sam et Bennett. Ça ressemble à ça.
Mais c'est, écoute, un deuxième centre qui est capable de te donner un point par match et ce style-là dans les séries, ça vaut de l'or. Maintenant, est-ce que ça vaut 10 millions par année? Je suis pas tant sûr que ça, mais c'est certain que ça va être un peu farfelu, je crois, cette période d'agent libre parce que le cap salarial monte, prend un bon petit bond de 8 millions de dollars cette année. Donc, et le fait qu'on sait que ça va continuer à augmenter de 8 millions d'année en année, ça fait en sorte que les équipes vont être plus aptes à dépenser de l'argent au long terme. Donc, je m'attends à avoir des montants de contrats assez volumineux cet été.
Ça,
Donc,
c'est vraiment
pour moi,
drôle,
Sam
Marco.
Bennett, ouais, c'est.
Le cap monte et les directeurs généraux, on dirait qu'on n'apprend pas, t'sais, de l'histoire. Combien de fois on a donné des trop gros contrats à des agents libres dans plein d'organisations, on dit, mais quelle erreur ça a été finalement de donner tout cet argent-là parce qu'on était dans justement un environnement compétitif, puis le joueur avait plusieurs offres et ça a fait monter le prix. Et là, finalement, ça valait pas la peine de le signer. Je comprends que des fois, on n'a peut-être pas le choix de le faire là, dans une certaine mesure, mais j'ai l'impression qu'on n'apprend pas dans les organisations.
Non, puis la façon que les agents vont négocier les contrats, c'est toujours le pourcentage du cap salarial. C'est pas le montant, parce que le montant, le plafond salarial augmente d'année en année d'habitude. Ça fait à peu près 5 ans que ça montait juste 1 ou 2 millions, mais là, ça va vraiment prendre un bond. Et quand on regarde la façon qu'ils négocient, ça va toujours être le pourcentage du cap salarial. Donc, si on compare, exemple, le contrat que Rantanen a signé, mais Rantanen allait se baser sur le pourcentage du contrat, exemple, de MacKinnon. Il allait regarder d'autres
Ouais.
contrats comme celui de Elias Pettersson, etc. Donc, c'est comme ça que tu te bases pour aller négocier un contrat. Mais là, si le cap augmente, ce pourcentage-là, mais tu ajoutes un 8 millions à ce pourcentage-là. Donc, si tu as 12% du cap salarial, puis c'est 8 millions, mais là, tu viens d'augmenter la valeur du contrat d'un million par année. Parce que c'est à peu près 9,6 millions. Excuse-moi, 960 000. Donc, ça fait en sorte que ça augmente la valeur du contrat. Donc, si tu as ça, plus tu as certains DG avec la parité dans la ligue en ce moment qui vont être poussés à dépenser par leur proprio parce qu'ils veulent aller non seulement accéder aux séries, mais aller loin en série et ensuite gagner une coupe. Tu as des équipes, on en a parlé, Toronto, Caroline. Attention à un club comme Utah qui va dépenser cet été, je vous le garantis. Donc, c'est des clubs qui vont être agressifs, puis
Oui.
ça va faire en sorte peut-être que ça va augmenter la moyenne de contrat de certains attaquants.
Le Mammoth de Utah,
À faire
qui
attention à eux.
c'est ben oui, faire attention. D'ailleurs, lorsqu'on mentionne le nom de Mitch Marner en quelque part, c'est pas mal la première équipe qui sort, là.
Puis il faut faire attention aussi parce qu'ils ont transigé le contrat de Shea Weber qu'ils ont acquis quand ils étaient les Coyotes d'Arizona. C'est pas par chance. Les Blackhawks de Chicago avaient besoin d'arriver au plancher du cap salarial parce que oui, il y a un plafond, mais aussi un plancher. Et eux se sont départis du 7 millions sur leur masse salariale pour ensuite se positionner pour dépenser cet été. À ce que je sais, ils veulent être très agressifs. On les a vus être agressifs l'été passé avec l'acquisition de Mikhail Sergachev et aussi d'un certain John Marino qui a été malheureusement blessé. Ils veulent continuer cette vague-là cette année. Et Mitch Marner est au top de la liste, ça, je peux vous le dire.
Oui, ils ont été frappés par les blessures cette année. C'est vraiment dommage. Je pense que l'année prochaine, effectivement, ça va être toute une équipe à suivre. Sean Dursey qui a été blessé aussi, qui avait fort impressionné d'ailleurs dans ses premiers coups de patin avec l'équipe. Là. Bien hâte de voir cette formation-là l'an prochain, moi.
Et aussi une formation qui pourrait être dans le 2B pour un centre numéro 2. Ils ont les atouts. Ils ont le quatrième choix au total aussi. Ils pourraient être disponibles selon ce qu'on entend. Pas nécessairement une méga transaction, à mon avis, mais peut-être pour descendre ou peut-être une méga transaction pour un centre qui pourrait être disponible. Je vais pas lier le club à un autre joueur, mais s'il y avait un club dans tout le repêchage qui pourrait faire une bombe avec leur premier choix, ce serait probablement Utah.
Donc, pour se reculer, tu veux dire?
Reculer ou transiger pour un joueur étoile.
Ah, ouais.
C'est ce genre de niveau-là, parce que la banque d'espoir, ils l'ont déjà. Ça fait des années qu'ils repêchent très haut. Ils ont beaucoup de jeunes qui occupent des places dans leur alignement. Ils viennent de signer Daniel Booth et Dimitri Simichev, un choix qui était très élevé en 2023. Ça continue à ajouter des jeunes joueurs. T'as le jeune Higgin là, qui va aussi rentrer dans l'organigramme. C'est très prometteur. Donc, eux autres, ils voient tous ces jeunes-là, ils voient tous les choix élevés qui viennent à maturité. Mais là, c'est le temps d'ajouter du talent. Et c'est à ce moment-là ce qu'on pourrait voir un club comme eux se dire, ça nous tente pas d'attendre 3-4 ans pour ce joueur-là. On veut un joueur d'étoile, un joueur d'impact maintenant. Et c'est ça qui pourrait peut-être faire bouger la balance, spécialement des joueurs qui ont besoin de nouveaux contrats bientôt ou qui ne voient plus ou sont plus nécessairement d'accord avec le DG qui roule avec leur club en ce moment.
Reste 25 jours avant le repêchage. J'ai vraiment l'impression que ça va brasser cette année. Je pense qu'on va avoir des grosses surprises. Ça va être intéressant à plusieurs niveaux pour plusieurs organisations, Marco. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir s'en reparler très souvent ensemble ici à cette antenne. Merci d'être prêté à l'exercice aujourd'hui. On se reparle jeudi, mon ami.
Toujours un plaisir. Bonne journée tout le monde.
Salut. Merci à toi aussi. L'excellent Marco D'Amico.